BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
On va parler des prix de l'immobilier à Paris. Désormais, 8 arrondissements sont en dessous de 10 000 euros du mètre carré. On va en parler dans un instant avec Pascal Bonnefille, directeur de la publication d'Immo Week, qui va nous rejoindre dans un instant par téléphone. C'est même compliqué au téléphone aujourd'hui. Marie Cœur de Roy est en plateau. Bonjour Marie.
Rebonjour.
On s'est déjà vu ce matin. 10 000 euros du mètre carré dans 8 arrondissements.
Moins, ouais.
La décrue continue, lentement, mais elle continue.
Mais oui, mais en fait, c'est finalement assez sain. C'est-à-dire que on a eu une baisse des prix à Paris qui s'est amorcée bien avant les autres villes, presque au moment de la crise sanitaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On était tellement haut qu'il fallait un moment qu'on descende. Donc, effectivement, on a eu une baisse des prix qui s'est amorcée, qui s'est installée, j'ai envie de dire, puisque alors c'est pas un effondrement des prix, hein, on perdait tous les trimestres 0,5, 1%, etc. Donc là, ça s'est installé. On a des arrondissements qui repassent donc sous les 10 000 euros du mètre carré. Et de fait, ça a repropulsé le nombre de transactions, alors qu'il se passait pas grand-chose sur le marché parisien compte tenu de la hauteur des prix de l'immobilier. On voit finalement que c'est assez sain parce que au moment où les prix ont commencé à baisser, et ben on a eu une reprise des ventes, ce qui prouve que finalement, on est en train peut-être d'atteindre entre guillemets le juste prix. Je dis ça, je rappelle à tous nos auditeurs que je ne suis toujours pas propriétaire, donc dire que environ 10 000 euros du mètre carré c'est le juste prix parisien. En tout cas, c'est visiblement ce que semble croire ce marché entre l'offre et la demande.
Pensez que les poubelles un peu partout dans Paris, ça va faire baisser les prix ?
Peut-être pas.
Il fallait que j'en parle quand même, hein. il fallait le placer.
Peut-être pas, il y a des touristes qui se prennent en photo devant, donc après tout, on ne sait jamais.
Oui, Émilie de Paris. Pascal Bonnefille nous a rejoint. Bonjour Pascal.
Bonjour Stéphane.
Directeur de la publication d'Immo Week. Un commentaire sur ce que disait Marie, hein. On est passé en dessous de 10 000 euros du mètre carré dans 8 arrondissements. Marie disait qu'on est en train de rejoindre ce que certains appellent le juste prix.
Oui, le problème du juste prix à Paris, comme elle le disait aussi, c'est quand même difficile à dire, hein, parce qu'on est sur des niveaux très très hauts. Alors, quand on perd 1%, moi je suis toujours un peu dubitatif, mais c'est vrai qu'on constate quand même, hein, il faut bien le dire, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une certaine baisse des prix. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est un marché toujours schizophrénique et que donc il y a quand même des arrondissements où ça continue gentiment à grimper, hein. Évidemment, c'est souvent les arrondissements les plus chers, ceux du centre, le 6e et le 7e qui sont ceux qui sont les plus chers à Paris. Ça quand même continue à prendre 3%. Donc, je crois que c'est un marché qui est quand même assez différencié et il faut bien noter ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une forme de marché qui est le marché le plus, on va dire, le plus abordable, on va dire, avec des très gros guillemets, encore une fois, par rapport au prix du reste de la France, disons, le moins cher, qui, lui, a un petit peu de difficulté. Et à mon avis, c'est lié aussi au fait, les conditions du crédit qu'on connaît, enfin, tout ce qui permet, d'une certaine manière, la baisse des prix ailleurs en France. Et puis, un marché qui est quand même très marqué par la présence des acheteurs internationaux, des acheteurs étrangers, qui, eux, ne connaissent pas la crise, et donc, enfin, pour certains d'entre eux. Et donc, ce marché-là, lui, il n'est pas concerné par cette baisse, hein. On voit bien que les arrondissements qui sont extraordinairement recherchés, extraordinairement chics à Paris, eh bien, eux, ils ne connaissent pas ce sujet, qui est des rats ou des surmulots dans les rues ou pas, ça continue à monter.
Ou des embouteillages, ou des travaux, ou des poubelles.
Oui,
c'est un peu notre quotidien
en
ce moment à Paris. Pascal, vous faites partie de ceux qui pensent que le marché parisien ne peut potentiellement pas s'effondrer, même en cas de crise immobilière, parce que la quantité d'appartements disponibles est limitée, parce que Paris est limité en surface.
Bah oui, parce qu'on construit pas assez à Paris. Ça, c'est mon grand cheval de bataille, Stéphane et Marie, c'est bien. Je trouve qu'on ne construit pas assez à Paris. Et tant qu'on ne construira pas davantage à Paris, forcément, on est sur un marché qui est quand même limité en termes de surface. Et donc, une fois que vous avez pas beaucoup de logements neufs, voire pas du tout de logements neufs et de logements nouveaux qui apparaissent, eh bien, vous avez forcément, face à une demande qui, encore une fois, bien sûr, une demande internationale, mais aussi une demande locale. Beaucoup de gens aimeraient habiter Paris ou aimeraient être propriétaires à Paris. Bien, je ne vois pas par quel miracle ou par quel, je ne sais pas, tour de passe-passe, on se trouverait face à une diminution très forte des valeurs. Moi, je n'y crois pas beaucoup.
Marie, le marché parisien ne peut pas s'effondrer ?
Bah, moi, je suis assez d'accord avec, avec Pascal. C'est-à-dire qu'il y a, quand même effectivement un rapport entre l'offre et la demande. Toujours, j'en parlais, c'est toujours ça. On est sur un marché qui n'est pas extensible à merci. Après, je trouve à chaque fois que c'est l'exemple des grandes villes et de cet assèchement de l'offre. Alors, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il y a des choses un peu jolies à envisager qui misent bout à bout des petites solutions pour trouver de quoi construire de nouveaux logements, et notamment ce qu'on appelle, je trouve, de manière poétique, le foncier aérien, c'est-à-dire faire de la surélévation. Il y a quand même pas mal de dents creuses, voilà. Il y a quand même pas mal de dents creuses à Paris, et donc ça peut être une solution parce qu'on sait qu'il n'y a pas aussi forcément de quoi construire. Donc voilà, il y a plein de petites solutions, les transformations, la réquisition de logements vacants. Il y a quand même des solutions à envisager qui, mises bout à bout, peuvent permettre de créer quand même une offre importante. Et puis après, faut réfléchir aussi à l'échelle de toute une région, en réalité, où en fait on s'est bien rendu compte qu'avec le Grand Paris, finalement le périphérique c'était devenu la 86 et qu'on pouvait aussi étendre un peu les frontières de Paris. Et ça peut être aussi une autre solution pour permettre d'équilibrer un tout petit peu les prix aussi.
Pascal, on va laisser les surmulots, on va prendre un peu de hauteur, parce que si le marché fléchit un peu dans la plupart des arrondissements parisiens, le segment du luxe et de l'ultra-luxe, lui, continue de battre des records. Paris fait toujours rêver les étrangers et les ultra-riches, et pas uniquement, j'ai envie de dire.
Ah oui, alors... Évidemment, surtout les ultra-riches, ils ont toujours été un petit peu une catégorie quand même à part, mais on voit des gens qui aujourd'hui achètent quand même à des niveaux 40 000, voire 50 000 euros du mètre carré. Alors évidemment, je vous parle de choses prodigieuses avec des vues extraordinaires sur la Tour Eiffel ou des jardins immenses. Enfin, vous voyez, il y a toute solution, des hôtels particuliers splendides. On a eu quelques exemples de très belles transactions ces derniers mois. Enfin, très belles au sens très, très élevé. Mais il y a aussi un marché du luxe moins dément, on va dire, mais qui quand même est pratiquement souvent au double, voire au triple des valeurs normales. Pourquoi ? Parce que ce sont des appartements ou des logements parfait état, extraordinairement bien décorés, souvent par des décorateurs un peu de très très bonne tenue, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là aussi, avec des extérieurs, à Paris aujourd'hui, tout appartement qui bénéficie d'une terrasse, d'une belle terrasse, eh ben c'est une très grosse cote en plus. Et par définition, c'est là où on va retrouver les sujets dont nous parlions tout à l'heure avec Marie, ceux qui sont dans des étages très bas, qui sont très sombres, qui n'ont pas d'extérieur, etc. Ceux-là, eux, ils auront une très forte décote. Mais tout ce qui est l'immobilier luxe, et ça, tous les grands spécialistes du luxe, les Barnes, etc., l'ensemble des intervenants du secteur le disent bien. Actuellement, le secteur va très bien, voire très très bien, et les très beaux appartements, les très beaux immeubles, quand il s'agit d'hôtels particuliers, eh ben ça se vend très bien. Encore une fois, dans le 7e arrondissement aujourd'hui, qui est un des arrondissements les plus chics de la capitale, il y a un quart des acheteurs qui sont des acheteurs étrangers. C'est quand même très considérable.
Le segment de l'ultra-luxe, Marie.
En fait, moi, ce que je trouve très intéressant sur ce segment-là, c'est qu'on voit qu'il y a une forme de retour aux fondamentaux ces derniers mois. On a vu, effectivement, qu'il y avait, en plus de Paris, parce qu'on avait coutume de dire qu'en gros, l'ultra-luxe, le luxe, c'était Paris et la Côte d'Azur. Et on s'est rendu compte qu'avec le Covid, avec le déplacement de population dans d'autres villes qui étaient moins cotées, Perpignan, par exemple. Il y a le réseau Coldwell Banker qui a carrément ouvert une agence dans le coin en considérant que c'était un nouveau territoire du luxe. Et en regardant la part des biens à plus d'1 million d'euros qui a explosé en l'espace de 2-3 ans. Pour autant, donc ça c'était au cœur du Covid, aujourd'hui ils sont en train de nous dire chez Coldwell mais chez les autres réseaux de prestige qu'en réalité, là on sent bien que les acheteurs sur ce segment de l'ultra-luxe ils reviennent aux fondamentaux, c'est-à-dire la Côte d'Azur, évidemment et Paris. Paris. Voilà.
L'ultra-centre et avec Paris, une vue.
Le Paris-centre, le Paris ou le 16e aussi pour certains. On dit que les Brésiliens aiment beaucoup le 16e et celui de, je crois aussi, de certains pays arabes avec des très beaux haussmanniens. Mais le Paris-centre et notamment le 6e et le 7e, Saint-Germain-des-Prés, ça continue à être extraordinairement cher.
Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir fait rêver un petit peu. Pascal Bonnefille, directeur de la publication d'Immo Week. Et merci, Marie Cœur de Rouen.
Moi, je ne fais pas rêver, c'est que Pascal.
Oui. C'est quand même un peu fort.
Merci Pascal. Merci.
Marie défend toujours les couches populaires et l'accession.
Donc je fais moins rêver, c'est ça de base.
Plus pragmatique, on va dire. Merci beaucoup en tout cas, Marie.